C'est l'histoire d'un païen qui désire se convertir au judaïsme. Alors il va voir Rabbi Shammai. Rabbi Shammai, il est connu, il a une sagesse, voilà. Il dit, Rabbi Shammai, si tu es capable de réciter toute la Torah sur un seul pied, la Torah c'est 613 commandements, hein, ça prend du temps, sur un seul pied, je me convertis au judaïsme. Rabbi Shammai, il s'énerve, il se fâche, il renvoie le païen. Le païen va voir Rabbi Hillel. Rabbi Hillel, lui aussi, il est plein de sagesse, il est très connu, il a plein de disciples. Et le païen lui dit, Rabbi Hillel, je connais ta sagesse, hein. Est-ce que tu es capable de réciter toute la Torah sur un seul pied? Alors Rabbi Hillel s'exécute. Il se met sur un pied et il dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Voilà toute la Torah, le reste n'est que commentaire. » C'est pas mal, hein. Au-delà de la petite blague, Rabbi Hillel et Rabbi Shammai ont vraiment existé, hein. Rabbi Hillel, il avait comme disciple Rabbi Gamaliel. Rabbi Gamaliel avait comme disciple celui qu'on appellera plus tard Saint Paul. Donc en fait, cette scène-là n'a rien du tout d'extraordinaire. Et au-delà de la blague, on voit qu'à travers cette question du scribe, quand il va voir Rabbi Jésus, il dit « Rabbi Jésus, mais quel est le premier de tous les commandements? Quelle est l'essence même de tous les commandements? Il y en a 613. Est-ce qu'il faut tous les faire un par un? Ou est-ce qu'il y a une essence ?» Une quintessence de tous ces commandements. Et donc c'est une scène tout à fait classique. Et en fait, cette scène tout à fait classique, elle est à replacer dans l'évangile de Marc, dans une suite de 5 controverses. 5 controverses où on voit Jésus est dans le temple, et on voit un défilé de tout un tas de groupes politico-spirituels qui viennent voir Rabbi Jésus. Et ils viennent demander quelque chose au sage Rabbi Jésus. Alors, on est au chapitre 11 de l'évangile de Marc. Là, on est dans notre évangile, on est à la fin du chapitre 12. Donc, au tout début du chapitre 11, qu'est-ce qui se passe? Il y a la purification du temple. Ça ne plaît pas aux prêtres, aux scribes et aux anciens, les chefs du peuple, qui vont voir Rabbi Jésus, qui dit mais par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné autorité pour renverser la table des marchands? Ensuite, il y a le groupe des pharisiens et des hérodiens, ceux qui ont le pouvoir. Ils viennent voir Rabbi Jésus pour lui dire, mais faut-il payer l'impôt? Une question un peu plus politique, voilà, ils ont le pouvoir. Et c'est là que Jésus va leur dire, hein, rendez à César ce qui était à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Troisième controverse, c'est le parti des Sadducéens qui viennent voir Jésus. Et eux, ils ne croient pas en la résurrection, ils ne croient pas dans les anges, ils ne croient pas dans tout ça. Voilà. La vie s'arrête à la mort, donc il n'y a plus rien derrière. Et donc, ils posent une question sur la résurrection. Alors, c'est la femme qui perd successivement ses 7 maris. Hein, vous avez ça en tête. Hein. Et donc, voilà, duquel sera-t-elle l'épouse au ciel? Bon. Arrive maintenant un scribe, lui il est présenté sans motivation malveillante par rapport à Jésus. Il vient simplement poser une question à Rabbi Jésus. Hein, quel est le premier de tous les commandements? Et à la fin de notre évangile, on nous dit « Et personne n'osait plus l'interroger ». Donc du coup, la cinquième controverse, c'est Jésus qui l'introduit lui-même. Il dit « En fait, on dit du Christ qu'il est fils de David ». Et en fait, on a cette identité de Jésus qui est Christ et en même temps de cette lignée davidique, hein, du grand roi d'Israël, David. Voilà, donc on replace dans ces 5 controverses. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on voit que toutes les questions qui sont posées à Jésus, ce sont toutes des questions très partisanes, très intéressées. Chacun est bien dans son rôle, en fait. et va poser sa petite question à Jésus, pour avoir sa petite réponse à lui, voire pour lui tendre un piège. On pense au jeune homme riche, chapitre 10 de Marc, hein, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est hyper intéressé. C'est intéressant d'avoir la vie éternelle, on en est tous là. Mais il y avait peut-être une autre question plus large à poser, ou que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Je ne sais pas, il y avait quelque chose d'autre. Donc important déjà de poser une question à Dieu, mais pas n'importe quelle question. Vous voyez, si Jésus se montrait maintenant visible à nos yeux, quelle question lui poserions-nous? Il y avait un prêtre une fois qui était responsable d'une communauté de prêtres et qui était en audience privée avec le pape. Alors il étant dans la file, vous savez qu'avec le pape ça va très vite, hein. On a une demi-seconde et en une demi-seconde il faut trouver un point d'accroche pour rester 3 secondes. Voilà. Et donc il faut trouver un bon truc pour pouvoir lui parler, échanger un mot, recevoir une parole du pape, parce que c'est important, parce que lui il avait des frères prêtres aussi à qui il voulait dire une parole. Et alors il est dans la file, et puis il s'avance, puis son tour arrive, et il trouve pas la question, et puis il arrive, il se présente devant le pape, et en une demi-seconde c'était fait, il avait serré la main du pape, et puis il était passé. Si c'était Jésus, quelle question est-ce qu'on aurait préparé, est-ce qu'on aurait mûri avec le temps, avec les événements de notre vie? Quelle question veux-je poser à Jésus? Et c'est là que nous avons un point de conversion à vivre. Je vais m'exprimer un peu comme dans les années 70, mais je pense que ça, la réalité est toujours là. Mais quelque part, le point de conversion que nous avons à vivre, c'est celui de passer du « je » au « nous ». Passer du « je » au « nous ». Parce qu'on est pris dans notre tendance qui est présente dans notre société, et nous, on n'en fait pas l'économie, hein, dans cette tendance un peu individualiste, dans cette morale de l'autonomie. Je m'auto-détermine, je m'auto-suffis. Ce qui est intéressant et ce que m'a fait remarquer le père Jean-Baptiste dans le Shema Israël, hein, qu'on avait dans la première lecture, hein, on a « Écoute Israël ». Tout le début de la première lecture, c'est « Tu craindras, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras, tu auras longue vie, tu veilleras, tu écouteras, toi, toi, toi ». Bon, c'est une interpellation personnelle. C'est très important. Et à un moment donné, on passe à « Écoute Israël ». C'est le peuple dans son entièreté qui écoute. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est le peuple qui écoute et qui aime son Dieu. Et donc, notre question, c'est comment est-ce que nous écoutons, comment est-ce que nous aimons Dieu, l'unique, en peuple, en communauté? Vous voyez qu'on sommes rentrés il y a, je pense, 2 semaines dans une démarche synodale, hein, sur un fonctionnement synodal de l'Église, une Église synodale. Et le pape François nous a donné 3 verbes, hein, rencontrer, écouter et discerner. On a besoin de se rencontrer, on a besoin d'être en peuple, on a besoin de s'écouter les uns les autres avant de pouvoir discerner. Le pape et les évêques qui vont pouvoir trancher, qui vont pouvoir justement discerner. Mais la première étape, c'est celle d'abord de se rencontrer, de constituer ce peuple, cette communauté, et d'être à l'écoute. Vous connaissez dans les évangiles synoptiques, hein, la manière dont on exprime ce double commandement, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Dans l'évangile de Jean, comment est-ce qu'on exprime le commandement nouveau? Comment est-ce qu'on exprime le commandement nouveau dans l'évangile de Jean, qu'on ne trouve pas du tout dans les synoptiques? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que C'est très bien d'avoir cette interpellation personnelle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain, mais aimez-vous. Jésus, il constitue déjà la communauté. Hein, aimez-vous. Il constitue cette communauté d'amour, cette communauté de charité. Hein, c'est pour ça qu'il envoie ses disciples deux par deux. Comment on parlerait de la charité fraternelle si j'ai pas de frère à côté de moi et que j'aime et que je m'efforce à aimer? Pareil, comment est-ce que nous écoutons et nous aimons Dieu en peuple de Dieu, dans notre culte, le culte dominical, quand on vient à la messe le dimanche, aussi bien dans la liturgie de la parole que dans la liturgie eucharistique, c'est tout le peuple entier. Dans tous les pays de la terre, c'est le même peuple de Dieu qui écoute la même parole de Dieu. Et qui se laisse pétrir, qui se laisse travailler par cette parole de Dieu. Donc c'est une responsabilité personnelle, mais qui a aussi des incidences au niveau communautaire. Voyez comment augmentons-nous notre niveau en Bible ? Comment est-ce que nous musclons nos connaissances bibliques ? Comment est-ce que nous baignons dans ces évangiles ? Qui d'entre vous a remarqué que la semaine dernière, on lisait la fin du chapitre 10 et que là, cette semaine, nous y lisions la fin du chapitre 12 et qu'il y avait peut-être un chapitre 11 et un début de chapitre 12 à lire entre les deux ? Et qui l'a lu ? Si j'étais méchant, je suis déjà un peu méchant, hein. Mais j'ai fait le même coup à la messe de 9h30, donc voilà. Et de comprendre qu'il y avait ces cinq controverses, et que les controverses, elles commençaient avec la purification du temple, et qu'en fait, ça change, ça s'enchaîne. Et que la Bible, avec la traduction liturgique, elle intitule ça le bloc des cinq controverses. Et donc, elle nous prend par la main, et elle nous indique déjà tout. Voilà. Donc important de se dire mais ben en fait c'est dans un tout, c'est pas un petit passage comme ça, c'est dans une suite logique. Comment est-ce que nous écoutons et est-ce que nous aimons Dieu en peuple, quand nous prenons soin les uns des autres et quand bien sûr nous sommes au service des plus pauvres? Et ça c'est... Vous voyez, je suis dans mon service, très bien qu'il soit ecclésial ou autre, hein, mais je peux être un peu quelque part dans mon silo, hein, et avoir du mal à voir la réalité d'à côté. Peut-être que cette réalité-là, j'ai du mal à m'y intéresser aussi. Vous voyez, quand nous nous occupons des plus pauvres, nous sortons aussi de cette tendance un peu individualiste, un peu égocentrique, un peu consumériste de la foi. Hein? Ma petite messe à moi, ma petite communion à moi, mon petit groupe de prière à moi, mon petit sacrement à moi, etc. Et on ne peut avoir cette tendance, hein? C'est une tendance très facile à Vannes. Hein? Parce que voilà, on a une vie ecclésiale très très riche. Et donc on pourrait se dire, mais en fait, oui, se recroqueviller un peu sur nous-mêmes, et de perdre cette réalité d'à côté. C'est pour ça qu'il y a une proposition d'un projet paroissial, le Cap commun, qui vous a déjà été un peu présenté, mais il y aura deux présentations la semaine prochaine qui seront plus spécifiques. Et moi, je vous y invite, hein, vraiment, à cette présentation du Cap commun pour voir un peu l'ensemble de ce qui se fait quand je suis à l'accueil, quand je suis à l'accueil de la messe, ou quand je rencontre quelqu'un dans la rue, ou quand j'ai un voisin, c'est important de savoir où est-ce qu'il en est dans la foi, qu'est-ce qui pourrait le nourrir, quelle étape il voudrait faire, où est-ce qu'il en est de son amour de Jésus, et donc qu'est-ce que lui propose la paroisse, par exemple. Si je n'ai pas cette connaissance, je loupe quelque chose. Voilà, que le Seigneur, à travers cette Eucharistie, à travers sa parole, continue de nous faire grandir en peuple, peuple de Dieu, dans l'écoute et dans l'amour de Dieu. Amen.